le retour à la maison. Chapitre 6. Le lendemain matin, à la première heure, Jean de Réchamp pénétra dans ma chambre. Le changement qui s'était fait en lui me frappa. Il n'était plus animé comme la veille. Il semblait nerveux et hésitant. Je devinais le but de sa visite. Il venait me demander de retarder notre départ de 24 heures. Strictement, nous aurions dû partir ce matin-là. Mais il y avait eu une affaire assez vive, à quelques kilomètres de Réchamp, et on avait apporté au château deux pauvres diables sérieusement blessés. On ne pouvait songer à les faire voyager le jour même. Toutefois, il était urgent de les porter dès le lendemain à un hôpital. « C'est un cas de force majeure. Il faut que nous restions jusqu'à demain. Vous avez de la chance, » lui dis-je en riant. Il rit aussi, mais en fronçant le sourcil, et je crus que j'avais eu tort de parler légèrement d'un retard dont la cause était si triste. « Ils s'en tireront tous les deux, soyez-en sûrs, mon bon Réchamp. Cela regarde Mademoiselle Malo. » Son front resta sombre. Il s'approcha de la fenêtre et tambourina sur le carreau. « Voyez-vous ce pan de mur écroulé là-bas, derrière les arbres ? » dit-il. « C'est tout ce qu'ils ont fait ici. » Quand on pense à Lermont, c'est à ne pas croire. Mais n'est-ce pas comme cela partout? Tout ne dépend-il pas de l'officier qui commande? Oui, sans doute. Je n'ai pas encore eu le temps d'avoir un récit complet de tout ce qui est arrivé. Ils parlaient tous à la fois. Mademoiselle Malo est la seule qui puisse me dire exactement. Il tournait autour de moi, assez embarrassé. « Écoutez, c'est absurde de vous demander cela, mais je vous en supplie. Tâchez de me ménager une heure de tête-à-tête avec elle. Voulez-vous ?» Sa demande m'étonna. Il continua en riant à moitié. « Vous voyez, ils sont tous là autour de moi, mon père, ma mère, Simone, le curé, les domestiques. Tout à l'heure, le village entier sera ici. Ils me mangent des yeux, à qui mieux ? C'est assez naturel, les pauvres. Voilà tant de mois qu'ils vivent ici, isolés, séparés de tout le reste du monde. Mais il n'en est pas moins vrai qu'ils ne m'ont pas laissé dire deux mots à ma fiancée. Eh bien, j'arrangerai cela. » Il sourit, un peu soulagé, et me quitta pour assister à une messe d'action de grâce que le curé allait célébrer dans la chapelle du château. Mes parents l'ont désiré, m'expliqua-t-il. Après la messe, tout le village nous accaparera. Mais plus tard, soyez tranquille, je vous donnerai une occasion, je vous le promets. Certainement, Mademoiselle Malo était moins belle au grand jour que le soir, aux lumières. Ce fut ma première pensée, en la voyant, vers la fin de la journée, venir vers moi sous les tilleuls de l'avenue. Jean était encore dans le château, occupé avec ses parents à recevoir les paysans. Je me demandais même pourquoi sa fiancée n'y était pas avec lui. En somme, sa place semblait être là-bas, à ses côtés, mais je savais qu'elle ne tenait pas grand compte des usages établis et qu'elle dédaignait les manifestations inutiles de sentimentalité. Oui, en plein jour, elle faisait moins d'effet. D'abord, elle semblait moins jeune, ses traits étaient un peu tirés, son teint sans éclat. Et pour la première fois, je remarquais que ses pommettes étaient trop saillantes. Même ses yeux, pourtant bien beaux, avaient perdu quelque chose de cette profondeur qui semblait, hier au soir, sans limite. Mais en m'accueillant, elle sourit. Et ce sourire avait un charme infini. Toute sa figure en était soudainement illuminée. « Je vous cherchais, » dit-elle. « Voulez-vous causer un peu avec moi ? La réception durera bien encore une heure. Chaque paysan et chaque paysanne voudra raconter tout ce qui lui est arrivé depuis l'invasion, sans faire grâce d'un détail. Et vous avez fui pour échapper à cette corvée ? Oui, je suis un peu fatigué de réentendre toujours raconter les mêmes aventures. Mais je croyais que personne ici n'avait eu d'aventure. C'était justement là ce qui nous remplissait d'étonnement. Elle haussa les épaules. En tout cas, cela rend leur récit terriblement monotone. Pensez donc, nous n'avons pas eu un seul martyr, pas un seul héros à montrer. En parlant, elle s'était éloignée de la maison, m'entraînant vers un chemin bordé de marronniers qui menait au parc. Bien entendu, il faut que j'en subisse tous ces racontars. Pauvre garçon, mais moi, c'est inutile. Je ne savais trop que répondre et marchais près d'elle sans rien dire. Elle parla enfin. Si vous l'aviez emmené ce matin, il aurait échappé à toutes ces histoires. Après un nouveau silence, elle ajouta lentement. Au fond, cela eût mieux valu.
Comment ? Il eût mieux valu l'emmener ?
Oui, je crois. Elle s'arrêta et dit brusquement en me regardant dans les yeux.
« Emmenez-le, je vous en prie. »«
L'emmener ? Maintenant ?»«
Oui, maintenant, le plus tôt possible. »«
En vérité, il est faible encore. »« Il est nerveux et abattu. »«
Et vous aussi, pensais-je. »«
Cette situation est au-dessus de ce qu'il peut supporter. »«
Vous ne pouvez pas vous figurer. »
À mon tour, je la regardais bien en face en lui répondant avec un léger sourire.
Mais si, je puis très bien me figurer.
Sa pâleur se colora un instant, mais elle rit et répondit simplement.
Oh, je ne fais pas allusion à l'émotion de me revoir, moi.
Mais ses parents, sa grand-mère, le curé, tous ses souvenirs du pays.
Au bout d'un instant, je répondis.
En somme, c'est vous à peu près la seule personne qu'il n'ait pas vue.
Ou presque pas.
Elle parut sur le point de me répondre, mais elle se tut. Pendant un long moment, nos yeux seuls se parlèrent. Je me sentis enveloppé d'une atmosphère d'intimité, presque de complicité. Que cherchait-elle à me faire comprendre par ce silence plein d'expression ? Je continuai. Si je l'emmenais maintenant, il partirait presque sans vous avoir vu. Elle était debout, sous les grands arbres dénudés, les yeux toujours rivés sur moi. Alors, emmenez-le donc tout de suite, dit-elle. Tout d'un coup, son visage se décomposa avec une expression de terreur mortelle. Puis, elle reprit bien vite son calme ordinaire. Elle avait les yeux tournés du côté de la cour du château. En regardant dans cette direction, je vis le cortège des paysans qui en sortaient. Mademoiselle Malot insista. « Je vous en conjure, emmenez-le, emmenez-le !» Au même instant, Jean de Réchamp se détacha du groupe des paysans et vint vers nous aussi vite que sa boiterie pouvait le lui permettre. Je ne savais que faire. J'avais senti tout ce qu'il y avait à la fois d'appréhension et d'insistance dans la demande de Mademoiselle Malot. Cependant, après avoir assisté la veille au soir à sa rencontre avec Réchamp, il était impossible de ne pas croire à son sentiment pour lui. Si elle désirait l'éloigner, ce n'était certainement pas parce que sa présence ne lui était pas douce. Encore maintenant, à mesure qu'il s'approchait, sa figure se voilait d'une émotion visible. Mais elle se détourna brusquement et se remit à marcher. Je la suivis en disant « Ne pouvez-vous, au moins, me laisser entrevoir quelles sont vos raisons ?»« Mes raisons, je vous les ai données. » Sans doute, je ne paraissais pas convaincu car elle ajouta plus bas
« Je préfère qu'il ignore encore toutes ces horreurs. »«
Quelles horreurs ? Je croyais qu'il n'y en avait pas eu par ici. »
« Si, tout autour de nous. » sa voix n'était plus qu'un souffle. Nos amis, nos voisins, tout le monde. Il finira bien par entendre raconter tout cela. Et puis, du moment que vous êtes tous sains et saufs, qu'il est heureux près de vous. Mais tenez, le voici. Est-ce que nous n'avons pas l'air de l'éviter ? Elle revint sur ses pas. Je remarquai qu'elle était plus pâle encore. Réchand nous rejoignit. Lui aussi, il était pâle. Il commença à parler sans me laisser le temps de m'éclipser, mais je vis bien que ma présence passait inaperçue. « Comment s'appelait l'officier qui commandait les Allemands logés ici ? » dit-il, sans quitter des yeux Mademoiselle Malo. Elle parut étonnée et répondit « Pouvez-vous ignorer son nom, après avoir subi pendant 3 heures les récits de tous les habitants de Réchamp ? » « Chacun l'appelle d'un nom différent. Ma grand-mère dit qu'il avait un nom français. Elle l'appelle Chabrac. »« Votre grand-mère n'a jamais appris l'allemand. Cet officier s'appelait le Oberst von Scharlach. Elle avait oublié ma présence, elle aussi. Ils étaient là, tous les deux, en face l'un de l'autre, immobiles, les yeux dans les yeux. Réchamp était livide comme la mort, ses traits contractés par l'effort qu'il faisait pour rester maître de lui-même. Enfin, il dit très bas, « Pourquoi ne m'avez-vous pas dit que c'était Scharlach qui était ici ?» J'étais justement en train d'expliquer à M. Greer, « À M. Greer ?» Et il me regarda avec une expression de colère. « Je sais toutes les histoires qui circulent, » continua-t-elle avec calme. « Et je disais à votre ami que, puisque nous avions eu le bonheur d'être épargnés, il me semblait inutile d'insister sur ce qui a pu se passer ailleurs. Au diable, ce qui a pu se passer ailleurs ! Je ne sais même pas encore ce qui s'est passé ici. » Je posai ma main sur son bras. Je sentais le regard de Mademoiselle Malo, qui cherchait le mien avec insistance, mais je ne voulais pas lui laisser voir que je m'en apercevais. Je dis à Réchamp, « Je vais vous laisser tous les deux maintenant, et Mademoiselle Malo va vous conter l'histoire tout au long. » Alors elle éclata. « Mais puisque je vous dis qu'il n'y a pas d'histoire à raconter !» Elle étendit la main vers la façade sereine du château, dominant ses jardins et ses champs intacts. « Nous sommes sains et saufs. Réchamp a été respecté. Pourquoi s'appesantir sur les horreurs qui ont atteint les autres, sur des horreurs auxquelles, hélas, nous ne pouvons rien ?» Mais Réchamp tint ferme. « Le nom seul de cet homme signifie massacre et abomination. » Il n'a laissé partout sur son passage que ruine et désespoir. C'est ce qu'on dit. Ne peut-on pas se tromper? Les légendes naissent vite en ces jours d'angoisse. Ici, et elle sembla invoquer le témoignage du paysage paisible qui l'entourait. Ici, vous voyez comment il s'est conduit. Au nom du ciel, mon ami, contentez-vous de cela. Me contenter? Dit-il, en passant sa main sur son front. « Je suis ivre de joie, ou du moins je le serais, si seulement... » Elle me jeta un regard suppliant, presque un regard de désespoir. Je pris le bras de Réchamp et lui dis d'un ton conciliant. « Mon cher Jean, vous semblez oublier que Mademoiselle Malo vient de passer par de terribles épreuves. La joie fait peur. » C'est votre cas à tous les deux. » Il baissa la tête. « Oui, oui, c'est cela sans doute. » Il reprit la main de sa fiancée et la baisa. « Je vous demande pardon. Greer a raison. Nous ne sommes plus nous-mêmes. Oui, je vais vous laisser un instant. Vous et M. Greer, si vous le voulez bien. » Elle nous enveloppa tous les deux dans un regard très calme et plein de dignité. Puis elle se dirigea lentement vers le château. Réchamp, immobile, la suivit un instant des yeux. Puis il se laissa tomber sur un banc au bord du chemin. Il prit son visage dans ses mains et je l'entendis qui répétait « Scharlach, Scharlach !» Longtemps, nous restâmes tous deux assis, là, à côté l'un de l'autre, sans nous dire un mot. C'est moi qui rompis le silence. « Voyez-vous, Réchant, elle a raison et vous avez tort. Je regretterai toujours de vous avoir emmené ici si vous ne reconnaissez pas votre erreur avant qu'il ne soit trop tard. » Sa figure était encore cachée. Mais après un autre silence, il laissa tomber ses mains et me répondit. « Oui, j'ai eu tort. C'est à elle que je dois le salut de tout ce qui m'est cher. Ma famille, ma maison. Ce sol même qu'elle m'a gardé, je l'adore à cause d'elle, et je voudrais y baiser la trace de ses pas. Et votre famille aussi adore Mademoiselle Malo. Et c'est la guerre qui a fait pour vous ce miracle. »